Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, depuis dimanche dernier, nous sommes dans le livre de Jonas que nous parcourons. Et Seigneur, aujourd'hui nous abordons les deux derniers chapitres. Et Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Ce que la Bible dit, tu le dis. Seigneur, donne-moi la... Ouais, fais-moi grâce de pouvoir exposer ce texte de Jonas 3 et 4 et donne-nous aussi un cœur attentif pour entendre ce que ton esprit désire nous dire ce matin. Merci parce que ta parole est vivante et efficace. En ton nom Jésus, amen. Ce matin, j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais changer la vision de l'Église. Je n'ai pas encore parlé au conseil pastoral. Ceux qui sont là sont au courant maintenant. Notre désir, c'est d'être témoin d'une région de Cossonay connectée au Christ pour la gloire de Dieu. J'aimerais la changer pour une raison principale que je vous expose maintenant. Je n'ai pas forcément envie qu'il y ait une région de Cossonay connectée au Christ. Je suis honnête avec vous, je vous le dis, on peut en discuter, mais je n'ai pas forcément envie d'avoir d'autres chrétiens à Cossonay. Alors, vous dites, bon, alors là, on va le laisser finir, mais après, on va le questionner quand même. Le groupe employeur dit, quand on l'a engagé, il ne nous a pas dit ça. Un tel discours, ça aurait pu être... celui d'un Jonas, si vous aviez engagé Jonas comme pasteur de cette église. Jonas vous aurait dit qu'il faut changer votre vision d'église parce qu'on n'a pas forcément envie d'une région de Cossonay connectée au Christ. Mais je ne suis pas Jonas, et avec toutes mes imperfections, j'adhère pleinement à cette vision. Vous voilà rassuré, vous pouvez écouter sereinement la suite du message. C'est bon. C'est vrai que dimanche dernier, on a vu que Jonas était un personnage particulier. Jonas est particulier parce qu'il ne s'enthousiasme pas pour ce que Dieu fait. Au contraire, il préfère râler quand il voit l'action de Dieu. Et on verra que dans les chapitres 3 et 4, Jonas n'a pas radicalement changé. Il est toujours aussi râleur. Dans ces deux chapitres, nous verrons aussi comment Dieu a compassion des Ninivites. Et on verra aussi la grâce que Dieu offre à ces gens. Et nous verrons aussi comment cette compassion est perçue par Jonas. Je peux déjà vous le dire, il n'a pas réussi son examen. La semaine dernière, Matthieu nous a donné un aperçu lorsqu'il a traité les deux premiers chapitres du livre de Jonas. Jonas n'a pas réussi. Ces deux premiers chapitres peuvent être résumés de la manière suivante. On peut les classer en trois sections. C'est Dieu appelle Jonas, Jonas désobéit, et à la fin, Jonas loue Dieu. Ce qui se passe dans les chapitres 3 et 4, c'est complètement l'inverse. On retrouve l'appel de Dieu pour Jonas, Dieu appelle Jonas, mais cette fois-ci, Jonas obéit. Mais au lieu de louer Dieu, Jonas conteste Dieu. Quel drôle de personnage. Et dans les minutes qui vont suivre, je vous proposerai de parcourir ces trois scènes. L'appel de Dieu pour Jonas, l'obéissance de Jonas et la repentance des Ninivites, et puis finalement, cette fin de livre avec cette contestation où Jonas n'est pas content avec ce que Dieu fait. Alors on va parcourir un petit peu ces trois tableaux, et durant ces trois tableaux, on sera attentif à la manière dont Dieu fait progresser son œuvre de grâce alors qu'un prophète essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Dieu appelle Jonas. Deux préambules. Le chapitre 3 s'ouvre directement sur cet appel. Il n'y a pas tellement de préambule. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Derrière la sobriété de cet appel, on retient un petit peu notre souffle. Car on sait ce qu'il y a eu avant, puis on se demande, mais est-ce que Jonas va obéir cette fois-ci? Il y a un suspense qui est là. Alors, presque en toute attente, on voit Jonas qui obéit aussitôt. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Contraste avec ce qui s'est passé avant. On est réjoui. Cette fois, ça y est, Jonas a compris la leçon. Enfin, il part dans la bonne direction. Jonas s'est mis dans la bonne direction. Il va à Ninive. Et le livre de Jonas nous dit, j'ai perdu ma page, voilà. Le livre de Jonas nous dit que Ninive était une grande ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. 3 jours de marche, ça représente 80 kilomètres à peu près. Alors, ça fait grand, mais je crois que le texte utilise là une figure de style pour montrer que c'est une grande ville, et surtout pour illustrer la tâche colossale du prophète, annoncer un message à toute cette ville, à toute cette population. Je ne pense pas que c'était les dimensions physiques de Ninive qui étaient de 80 kilomètres. Les villes antiques étaient quand même bien plus petites et l'archéologie nous montre plutôt une ville de 5 kilomètres de diamètre, ce qui est une ville déjà tout à fait correcte pour l'Antiquité. 80 kilomètres, c'est simplement une figure de style. L'auteur exagère un petit peu le trait pour montrer l'ampleur de la tâche de Jonas. Et on verra pourquoi aussi plus tard, cette dimension de ville est exagérée. Il y a beaucoup d'humour dans le livre de Jonas. Et puis, ça en fait partie. Alors, Jonas se met en route pour Ninive. Il arrive après un jour de marche. Il s'arrête et puis il donne son discours. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alors, certains prophètes comme Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel prennent des chapitres entiers pour transmettre les paroles du Seigneur. Jonas utilise 5 mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. J'aimerais bien faire un petit commentaire sur Jonas. Jusque-là, on était réjouis, on se dit, ben tiens, ça y est, il a obéi à Dieu, il s'est rendu à Ninive. Mais je vais peut-être vous spoiler un petit peu la suite en vous disant que Jonas ne transmet pas ce message de gaieté de cœur. Dans 40 jours, Ninive est vite détruite. Jonas ne parle pas du mal que les Ninivites commettent. Il ne parle pas non plus de repentance. Jonas arrive à Ninive, puis il annonce que la ville sera détruite. Comme si c'était là une certitude. Comme si le sort qui attendait Ninive, c'était le même que Sodome et Gomorre en Genèse 19. Peut-être Jonas devait penser que c'était impossible pour les habitants de Ninive se repentent, reviennent de leur mauvaise conduite. Autant prendre un raccourci, s'économiser de la salive. Annonçons directement la destruction, c'est plus simple. Peut-être qu'il faut maintenant faire un petit zoom sur cette ville de Ninive pour comprendre un petit peu les enjeux et comprendre ce qui se passe dans cette ville. Alors, allons un petit moment à Ninive et regardons ce qui s'y passe. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, quand Jonas arrive dans cette ville et proclame cette parole. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ninive était la capitale de l'Empire assyrien. Et cet empire s'étend jusqu'aux portes du pays d'Israël. Ah ben ça, c'est déjà une information intéressante. On se dit, ben, je comprends pourquoi Jonas n'aime pas trop les Ninivites. Peut-être qu'il a eu un certain plaisir aussi à annoncer la destruction de Ninive. Hein. Mais la situation de l'Assyrie au 8e siècle était aussi en déclin. Ce n'était pas un empire qui progressait, mais plutôt un empire où on proie à des craintes intérieures et à un certain déclin. Il y a des famines, il y a même une éclipse qui laisse présager une catastrophe selon les croyances assyriennes de l'époque. On peut penser que les habitants de Ninive sont dans une certaine crainte. Et à l'extérieur de l'Empire, tous les peuples s'accordent à dire que la politique impériale de l'Empire était violente et méchante. Ce petit zoom sur Ninive nous permet de comprendre 2 choses. La première, c'est que Jonas a certainement de bonnes raisons de ne pas aimer les Ninivites. Et la deuxième chose, c'est que les Ninivites vivent quand même dans la crainte d'une catastrophe imminente. Tout cela nous conduit à la deuxième scène. Cette deuxième scène qui est la repentance des Ninivites. L'appel de Jonas est donné, la prédication relativement courte est aussi donnée, à mon avis il aurait pu étoffer un petit peu plus, mais avec ces cinq mots, on voit que les Ninivites se repentent. Le verset 5 nous dit « Les Ninivites, les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux petits. » Quand on lit ça, dans notre progression de la lecture, moi j'étais choqué quand même, je ne sais pas vous. Imaginez le contraste, dans 40 jours Ninive sera détruite, super, les habitants de Ninive se repentent, ils font un deuil, ils jeûnent, etc. Il y a un décalage quand même. Au début du livre d'ailleurs, celui qui est on va dire l'ADN, le CV le plus complet, ça reste Jonas. Il est juif, il connaît la parole de Dieu. Ça devrait être lui qui obéit. Mais lui, il désobéit, alors que Dieu lui a parlé clairement, alors qu'il connaissait Dieu. Et le paradoxe ici, c'est que les Ninivites ne connaissent rien du Dieu d'Israël. Et sur quelques mots du prophète, ils changent complètement d'attitude. Le peuple le plus rebelle du monde ancien est en train de changer. Il y a peut-être un petit miracle là derrière, non? Alors, on peut être surpris de ce changement d'attitude, mais moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est, si je parcours encore un petit peu plus loin, c'est l'attitude du roi de Ninive. Il y a quelque chose de fou qui se passe dans ces versets. Ce roi nous dit, au verset 6, « Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. » Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision ? S'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. » C'est incroyable de trouver ces paroles dans le roi de Ninive. Je ne m'attendais pas à trouver ces paroles-là dans la bouche du roi. Pour moi, c'est plutôt Jonas qui aurait dû annoncer ces paroles-là. Ça aurait certainement mieux convenu au protocole prophétique de l'époque. Le roi de Ninive a compris les enjeux. Et on peut se poser la question si cette repentance était sincère ou non. Ça, c'est tout l'enjeu, les débats d'interprétation. Je ne sais pas à quel point cette repentance était sincère. Je pense qu'il y avait une démarche vraiment sincère, mais à l'inverse des marins, les Ninivites n'ont pas offert de sacrifice à Dieu. Souvenons-nous, les Ninivites vivent quand même dans la crainte. Peut-être tout ce qui est dit est bon à prendre. Mais finalement, si on n'en sait pas beaucoup plus sur cette sincérité de repentance, peut-être que la question soulevée par ce qui se passe là n'est pas fondamentale. Le rôle principal du livre, ce n'est pas Ninive, ce n'est pas Jonas non plus. Mais du début à la fin, le personnage principal, c'est Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et ça nous amène à cette troisième scène, où finalement, devant ce qui se passe, Jonas conteste Dieu. Vous comprenez pourquoi je vous dis que Jonas n'aurait pas été un bon pasteur pour cette vision d'église. Changement d'attitude à Cossonay et imaginez que je dise « Ah ben non, c'est pas juste quand même ». Jonas voit un changement de situation improbable se produire sous ses yeux. Il est furieux. Imaginez quelqu'un que vous n'appréciez pas forcément. Je ne vous demande pas de dire son nom, mais de le garder pour vous. Imaginez que vous le voyez dimanche prochain au culte ici. Soyons honnêtes. La joie sera peut-être dissipée par quelques questionnements, peut-être même amertume. Jonas n'aime pas les Ninivites et il le fait savoir. Au verset 2 du chapitre 4, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter quand j'essayais de fuir, en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car mourir vaut mieux pour moi que de vivre. » Ces versets nous montrent que Jonas avait une bonne théologie. Il connaissait bien Dieu. Dieu est plein de compassion et de grâce. Il est riche en bonté. Tout cela, c'est juste. Mais le prophète a seulement de la peine à accepter que cette grâce, que cette compassion soit destinée à un autre peuple que le sien. Un peuple réputé méchant, sanguinaire. Alors Jonas essaie de fuir une troisième fois. Au lieu de se réjouir du sursis obtenu par les Ninivites et de leur repentance, Jonas cherche à fuir. Il demande la mort. Mieux vaut pour moi de mourir que de vivre. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Si je vous transpose ça ici au XXIe siècle, ça peut donner ça. Imaginons que nous ayons un programme, un camp d'évangélisation, nous allons dans la rue, on témoigne, il y a des conversions, c'est super Gérard, hein, on prie pour les gens, voilà, il y a des choses qui se passent, la commune de Cossonay vient vers nous, dit « non mais c'est vrai, vous avez raison, l'évangile c'est pertinent, il faut qu'on proclame l'évangile dans les salles de classe ». Enfin, imaginez un réveil à Cossonay, et puis finalement on se dit « ah ben non, enfin, vaut mieux mourir que de voir ça ». C'est un petit peu ce qui se passe pour Jonas. On a un prophète qui est un petit peu à côté de la plaque. Mais Dieu ne s'irrite pas. Dieu ne s'irrite pas contre Jonas. Dieu a aussi compassion pour Jonas. Et Dieu désire à nouveau l'attirer à lui. Il fait pousser un ricin pour lui donner de l'ombre. Oui, parce que Jonas s'est un petit peu retiré de la ville, construit une cabane sur une petite colline et se dit ben, « je vais peut-être attendre 40 jours et on verra bien ce qui se passe, si la ville sera détruite ou non ». Et Dieu vient le rencontrer là, dans cette situation, et lui fait pousser un ricin pour qu'il ait de l'ombre. Bonne nouvelle, le texte nous dit que Jonas est content. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Je pourrais m'arrêter là, ce serait bien. Mais Jonas ne revient pas sur son attitude, pas un merci, mais au moins il est content. Et patiemment, Dieu continue à parler à Jonas au travers de cet acte, de cet arbre. Le lendemain, il fait venir un petit ver qui ronge l'arbre et finalement l'arbre meurt. J'ai trouvé drôle à ce moment-là dans ce livre de remarquer que Dieu parle à Jonas avec des animaux. À deux reprises, Dieu fait intervenir des animaux pour parler à Jonas. D'abord le gros poisson, puis le petit ver. L'un vit dans l'eau et l'autre vit sur la terre. Les dimensions de ces animaux sont complètement folles. Mais Dieu utilise chacun d'eux pour parler à Jonas. Enfin, voilà, c'est les détails dans le texte que j'aime beaucoup. On voit l'humour de Dieu, finalement, dans sa révélation. Et Dieu envoie ce petit ver, l'arbre meurt, et pour la deuxième fois dans le livre, Dieu fait souffler le vent. La première fois, c'était pour la tempête, quand Jonas a fui pour Tarsis, et la seconde fois, c'est pour amener une chaleur écrasante sur Jonas. Fidèle à lui-même, notre prophète retrouve sa vraie nature. Il râle à nouveau, et cette fois, un dialogue commence avec Dieu. Ce dialogue, nous pouvons le lire dès le verset 8. Alors Jonas commence comme à son habitude, « Il vaut mieux pour moi mourir que de vivre. » Alors Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de cette plante ?» Il répond, « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel lui dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a causé aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, est-ce que je n'aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux ?» Paf, fin du livre. C'est sur ces mots que le livre de Jonas s'achève. Sur cette question que Dieu pose à Jonas. C'est dommage, on n'a pas la réponse du prophète à cette ultime question. Alors certainement, les négociations ont duré un petit moment, mais on n'a pas non plus de nouvelles des Ninivites. Le livre s'arrête là. On a peut-être un sentiment d'inachevé. Est-ce que l'auteur était pris de court? Il a dû vite rendre sa copie, et puis on l'a placé dans le canon biblique, il n'est pas fini, tant pis. Je ne pense pas. Je pense que Dieu veille à chaque détail de l'écriture, et si cette fin paraît abrupte, c'est bien parce que le personnage central, ce n'est pas Jonas, ni les Ninivites, mais le personnage central, c'est Dieu. Et cette fin nous montre que finalement, en fait, ce qu'il faut voir dans ce livre, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu pour Ninive, pour Jonas, pour ses marins. Ces deux chapitres, 3 et 4, mettent en avant la compassion de Dieu. On ne met pas tellement en avant la rébellion de Jonas, elle est utilisée, cette rébellion, mais pour mettre en avant la compassion de Dieu. Et cette compassion, elle frustre profondément Jonas. Parce que la compassion de Dieu est dirigée par sa grâce plutôt que par une obéissance stricte aux lois ou une appartenance au peuple élu ou par une théologie très sophistiquée. La grâce de Dieu surpasse tout. Et la grâce de Dieu, c'est le moteur qui amène sa compassion pour les Ninivites. Dieu n'a pas attendu ce que les Ninivites remplissent un certain cahier des charges pour pouvoir offrir sa grâce. Ils se sont repentis, ils ont fait un petit pas à leur niveau, sans forcément tout comprendre du Dieu d'Israël, mais cela suffit pour que Dieu leur accorde la grâce, leur donne un sursis. Si je vous spoil la saison 2, les Ninivites n'ont pas... cette repentance n'a pas duré, puisque quelques années plus tard, ils assiégeront Jérusalem. Mais toujours est-il qu'il y a un petit pas qui est là. Et Dieu honore ce petit pas, et Jonas ne le comprend pas. Dieu se plaît à faire connaître sa compassion à un peuple qui ne le suit pas encore complètement. Il se réjouit de chaque petit pas de ses créatures. Et d'ailleurs, même Jonas est heureux de la compassion de Dieu. Quand je vous ai dit que Jonas était content, ça a fait rire. Mais c'est significatif, la seule fois où il est content, c'est quand Dieu montre de la compassion pour lui, pour son confort personnel. Oui, la compassion de Dieu est au centre de ce livre. Et Dieu a compassion de Ninive. Et Dieu a compassion de Jonas, il ne fait pas de différence. Dieu ne s'avoue pas vaincu par Jonas dès les premières lignes de son refus. Il insiste. Et certainement que le livre se termine d'une manière peut-être un petit peu abrupte, en queue de poisson, un petit peu inattendue. Mais certainement que Dieu n'a pas laissé Jonas à ce moment-là. Alors que nous apprécions, que nous contestions finalement la compassion de Dieu, Dieu n'est pas limité par nous, par ce que nous pouvons faire. Quelques années plus tard, après ce récit de Jonas, une poignée de pharisiens s'approche de Jésus et lui demande un signe miraculeux, comme s'il n'en avait pas déjà fait assez. Jésus a déjà fait plein de signes miraculeux, mais les pharisiens arrivent vers lui et puis lui disent, on lit ça en Matthieu 12, verset 38, les pharisiens lui dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Jésus leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, ici, il y a plus que Jonas. Amen, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plus ici que Jonas. Et Jésus, là, s'identifie à Jonas. Alors, non pas pour le caractère râleur, mais Jésus s'identifie au niveau de sa prédication. Et à l'inverse de Jonas, Jésus est obéissant. Il prêche la repentance et la conversion. Il a tous les atouts pour être écouté et cru, mais il ne l'est pas. Jonas, lui, est désobéissant. Il annonce la destruction de Ninive. Il a tous les atouts pour ne pas être cru. Pourtant, des païens l'ont cru. Contraste saisissant entre Jésus et Jonas, non ? Les Ninivites se sont repentis à la parole d'un étranger. Et les Juifs, les pharisiens, n'ont même pas écouté l'un des leurs. Alors, que veut dire Jésus quand il dit « Or, il y a ici plus que Jonas » ? Jésus fait référence à Jonas peut-être avec un petit peu d'humour pour montrer l'entêtement des pharisiens. Il compare peut-être ces pharisiens aux Ninivites et leur signale que les Assyriens, finalement, ont fait beaucoup mieux qu'eux. Mais là où il y a plus, c'est dans le contraste entre Jésus et Jonas. Jonas avait une prédication assez lacunaire. Et Jésus est le Fils de Dieu qui annonce le salut au monde. Jonas a passé 3 jours dans le poisson. Jésus passera 3 jours dans le tombeau. Jonas a eu comme résultat la repentance d'une ville. Jésus acquerra le salut pour le monde entier. Comme Jonas, les pharisiens étaient bornés. Ils n'ont pas vu l'universalité, ils n'ont pas vu l'ampleur de la prédication de Jésus, ils n'ont pas vu l'ampleur de ce que Jésus allait accomplir, cette universalité. Oui, l'œuvre que Jésus annonce, sa mort et sa résurrection sont universelles. Lui seul a payé le prix pour que nous ne subissions pas la mort éternelle, mais il nous a réconciliés avec Dieu, une fois pour toutes. Et cette offre est valable que nous soyons ici en Suisse ou à l'autre bout du globe. S'il y a une seule chose que vous devez retenir du chapitre 3 et 4, c'est la compassion et la grâce de Dieu pour ce monde. Et vous savez, en théologie, on parle souvent que Jésus a donné sa vie pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés de la colère du Père. C'est vrai que la théologie protestante utilise vraiment ce mot « colère de Dieu ». Jésus a pris sur lui la colère qui nous revenait. Tout cela est bien sûr juste, Mais peut-être que nous avons défini une idée un petit peu de Dieu le Père, un petit peu austère, un petit peu sévère. Un Père autoritaire qui n'attendrait que ce que sa colère se manifeste. Et heureusement, finalement, Jésus est venu. C'est bon. Parfois, on peut avoir cette vision du Père un petit peu tronquée. Mais ces deux chapitres viennent un petit peu renverser cette conception. Dieu est un Dieu doux. Dieu est patient. Dieu éprouve la compassion. Même si nous nous entêtons, Dieu n'est pas distant. Et comme pour ces Ninivites, les tendres soins du Père nous entourent de douceur, jusque dans les moindres détails de notre vie. Cette compassion doit nous amener à louer Dieu pour qui il est. Nous n'avons rien mérité, elle nous est offerte. Et c'est peut-être l'occasion pour certains d'entre vous d'accueillir cette compassion que Dieu offre. De changer peut-être le regard que vous portez sur Dieu. Peut-être que votre vision de Dieu est tronquée, biaisée. Et peut-être que ce matin, à la lecture du livre de Jonas, vous vous dites, mais au fait, oui, Dieu est un Dieu d'amour et j'ai envie de connaître ce Dieu de compassion. Et c'est peut-être aussi pour nous l'occasion de nous poser la question si nous ne réagissons pas parfois comme Jonas, lorsque la grâce de Dieu désire se manifester. Alors c'est sûr, on a du plaisir à entendre parler de conversion, de gens qui reviennent leur ancienne vie, mais peut-être qu'il y a des gens, on n'a pas forcément envie de les voir changer de vie. Peut-être que parfois nous sommes atteints du même syndrome de Josias. Ça fait une semaine que j'appelle Josias Jonas. Voilà, la série se termine, c'est bon. Peut-être nous sommes atteints de ce syndrome de Jonas qui est de finalement être ses propres justes. Hein. Moi je suis juste, moi je mérite la grâce de Dieu parce que je fais les choses bien. Lui certainement pas. Et si le livre de Jonas accentue les traits, s'il nous fait bien rigoler par moments, peut-être que Jonas est en quelque sorte un miroir dans lequel on peut se regarder et se dire « Mais est-ce que dans mon attitude, il n'y a pas quelque chose de Jonas ? Est-ce que moi, je ne me crois pas des fois suffisant pour être sauvé ? Puis lui, pas. Lui, il ne fait pas les efforts nécessaires. » Je vous invite à prendre quelques instants de silence et, si vous le souhaitez, à formuler cette prière. Seigneur, ce livre de Jonas, j'aimerais le mettre face à moi. Et ce prophète, j'aimerais me regarder comme dans un miroir. Et est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où finalement, je suis un petit peu comme ce Jonas. Seigneur, peut-être que je n'ai pas non plus compris ta grâce. Peut-être que ma vision de toi est un peu biaisée, un peu tronquée. Seigneur, peut-être que j'ai besoin de te connaître comme un Dieu de compassion. Seigneur, si quelqu'un se pose la question ici, Seigneur, je te prie de venir te révéler à cette personne comme un Dieu de compassion et de grâce. Il n'y a pas de dualité entre ton Fils Jésus et toi-même. Tu étais pleinement participant à l'œuvre du salut. Mais parce que tu étais parfait, tu ne supportais pas le péché. Et merci d'avoir accepté l'œuvre de Jésus, qui témoigne de ta compassion envers nous, de ta grâce envers nous. Alors que nous n'avons rien pu nous faire pour nous sauver, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous racheter. Alors Seigneur, viens renouveler tout à nouveau cette image d'un Dieu de compassion et de grâce que tu es. Amen.